disons, le tabac chauffé se présente sous deux formes. Il y a la forme que l'industrie de la cigarette est en train de mettre sur le marché, et on ne sait pas ce que c'est en détail. C'est un secret industriel qui, effectivement, propose des produits qui, au lieu de brûler le tabac, et par conséquent de créer une combustion avec la production d'hydrocarbures, ce tabac ne serait plus brûlé, mais serait chauffé. Voilà, ça, c'est ce qu'on nous annonce. Et c'est un produit industriel qui n'a jamais été testé sur le plan scientifique. Donc voilà, ça c'est le premier type de tabac chauffé. Ensuite, il y a un tabac qu'on appelle smokeless tobacco. En langue anglaise, c'est du tabac qui est chiqué, qui est mâché, alors qui est chauffé, si vous voulez, simplement par le fait que le fumeur va humidifier quelque chose et puis avec sa propre température, mais il n'est pas vraiment chauffé dans le sens classique. Mais c'est également une alternative, ce nouveau type de tabac que l'on peut obtenir également sur Internet ou par certains circuits qui est lui aussi pas chauffé, mais qui lui par contre brûlé, mais qui est lui aussi proposé comme alternative aux fumeurs. Et il est vrai que toute option autre que la cigarette standard chez les fumeurs doit être envisagée. La première option, c'est l'arrêt, mais pour celles et ceux qui ne peuvent pas arrêter parce que c'est difficile, ils ont développé une dépendance, alors il est logique de se poser la question d'autres produits. Mais alors, si le premier produit auquel il faut penser, c'est la cigarette électronique probablement, et non pas ces autres produits dont j'ai parlé, parce que ces produits chauffés, comme vous dites, parce que effectivement, on connaît vraiment très peu de choses sur ces produits-là. La cigarette électronique, on a quand même quelques données préliminaires qui montrent que le fumeur, jusqu'à preuve du contraire, diminue considérablement ses risques de santé en se mettant à la cigarette électronique.
Des données préliminaires, mais est-ce qu'on risque pas d'apprendre quand même dans quelques années que finalement la cigarette électronique, ce n'était pas si bon que ça, et que finalement elle a d'autres propriétés, et qu'on risque aussi sa santé avec la cigarette électronique?
Oui, c'est possible. C'est une pesée d'intérêt. Vous avez chaque fois dit le terme de risque, de probabilité. Donc, on est dans la pesée d'intérêt de probabilité. Chez le fumeur qui fume des cigarettes de tabac standard, on sait qu'un fumeur sur deux va mourir du tabac. On sait qu'en moyenne, un fumeur diminue son espérance de vie de 10 à 12 ans. Ça, c'est une certitude. Pour la cigarette électronique, on estime actuellement qu'on diminue le risque, non pas de 100%, parce que vous l'avez dit, il reste une zone d'ombre, mais en tout cas de 95%, compte tenu du fait que c'est que de la nicotine et qu'il n'y a pas de tabac qui est ni brûlé, ni chauffé, ni mâché. Donc, d'un point de vue pragmatique pour les fumeurs, je dis bien pour les fumeurs, il est toujours mieux de se mettre à la cigarette électronique et de continuer à fumer dans la mesure où il décide de ne pas arrêter de fumer. Ça, c'est certain.
Ce sont des moyens donc que vous conseillez aux patients qui vous consultent. D'ailleurs, les fumeurs, pour vous, ce sont des patients. On doit les considérer comme malades ?
On doit les considérer comme étant dépendants d'une substance qui est la nicotine. Alors après, est-ce que la dépendance est une maladie ? Ça, c'est une question plus générale. On a tous peut-être des dépendances. Alors, une des dépendances les plus fortes, c'est effectivement la nicotine. Vous savez que les héroïnomanes disent que c'est sur le plan psychique, c'est tout aussi dur de se défaire de la nicotine que l'héroïne. Pas sur le plan physique, parce que sur le plan physique, il y a un sevrage à l'héroïne qui est très fort, ce qui n'est pas le cas, nettement atténué pour le sevrage à la nicotine sur le plan physique. Mais sur le plan psychologique, c'est hautement addictogène. On a maintenant identifié dans le cerveau des récepteurs à la nicotine. Alors, on les a tous. Pour celles et ceux qui ne fument pas, ces récepteurs, ils sont dormants, ils ne sont pas sollicités. Puis pour celles et ceux qui fument, ils sont réellement sollicités. Puis au moment donné, on arrête de fumer, ces récepteurs, ils appellent, ils disent, écoutez, donnez-moi ma substance, Donc, on est vraiment, alors, je dirais en tout cas, c'est des individus qui ont développé pour la grande majorité une dépendance, en sachant qu'elle se développe très vite, cette dépendance. On a des données chez les ados, chez les jeunes adultes, qu'il faut pour certains, pas pour tous, mais pour certains, en quelques mois déjà, ils développent une dépendance avec le sevrage physique et psychique quand ils n'ont plus la substance que cette nicotine.
Alors, pour certains fumeurs, parmi les obstacles à l'arrêt, il y a ce problème de dépendance qu'il faut surmonter, mais il y a également l'angoisse de la prise de poids. En passant de la cigarette aux autres types de tabac, cigarette électronique par exemple, est-ce que ce problème ou cette angoisse de la prise de poids est résolue?
Alors, on n'a pas de données scientifiques solides sur l'évolution. En tout cas, moi, je ne les connais pas, mais je n'ai pas vu de publication qui montrait l'évolution de la prise de poids à l'arrêt du tabac avec des gens qui seraient passés la cigarette standard, la cigarette électronique, qui auraient complètement arrêté de fumer les cigarettes standard. Ça, je n'ai pas de données. Ce que l'on sait, et vous avez raison, c'est une perspective qui angoisse certains fumeurs, surtout certaines fumeuses. Il faut juste rappeler quand même que si c'est vrai, en moyenne, les fumeurs prennent entre 3 et 4 kilos à l'arrêt du tabac. Certains ne prennent rien. Nous, on a des données scientifiques solides qui montrent qu'il y a des fumeurs qui arrêtent de fumer sans prendre un gramme. On sait certains prennent 10 kilos, mais certains en prennent zéro. Et puis, pourquoi ? Alors, il y a plusieurs explications, mais notamment parce que justement cette nicotine qu'apporte le tabac ou maintenant la cigarette électronique permet de griller des calories par rapport à celles et ceux qui n'ont pas cette nicotine. Alors, l'hypothèse qu'avec la cigarette électronique, on atténue la prise de poids, elle est plausible. Mais je n'ai pas de données qui permet de le confirmer ou de l'infirmer. Mais on sait qu'avec les substituts de nicotine, le patch, la gomme, on atténue en tout cas dans le premier temps cette prise de poids. Donc il est logique de postuler, mais il faut encore le confirmer, qu'avec la cigarette électronique, on aurait aussi une atténuation de la prise de poids quand on arrête complètement de fumer.
Alors professeur, on a évoqué tout à l'heure la cigarette électronique, le tabac chauffé comme quelques alternatives pour les accros à la nicotine. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, l'industrie du tabac peut être un partenaire de ceux qui œuvrent pour la prévention, ou alors les buts sont toujours opposés?
Non, on ne peut pas imaginer actuellement dans les conditions actuel, un partenaire avec l'industrie de la cigarette. Pour moi, il n'y a aucun doute, pour trois raisons. La première, c'est l'histoire. On doit tenir compte quand même de l'attitude de cette industrie pendant des décennies où elle a caché ce qu'elle savait. Elle a induit en erreur le consommateur avec les cigarettes dites légères, avec le filtre. Donc ça, c'est la première raison. On pourrait me dire, mais voilà, c'est l'histoire, elle est en train de retrouver une virginité. Alors non, parce que c'est la deuxième raison. Actuellement, elle continue à vouloir rattraper des jeunes pour avoir des nouveaux consommateurs, puisque cette industrie voit ses anciens consommateurs quitter le marché de la cigarette, on se réjouit parce que de plus en plus de gens arrêtent de fumer. Elle continue à faire de la publicité pour attraper, convaincre des jeunes à non pas à s'initier à la cigarette, parce que ça, il n'y a pas besoin d'industrie, mais à consolider leur consommation en vendant une image d'un tabagisme fun, sympa, ouvert, on est avec des jeunes et tout. Donc ça, c'est la deuxième raison, elle n'a aucune crédibilité compte tenu de qu'elle continue à faire de la publicité qui vise les jeunes. Puis la troisième raison, c'est qu'elle se bat contre les mesures efficaces. Les mesures efficaces, jusqu'à preuve du contraire, c'est justement les mesures de santé publique, interdiction de toute publicité directe et indirecte, et puis par exemple les paquets neutres, parce qu'une des plus grandes publicités des cigarettes, c'est justement le paquet de cigarettes, et le fait qu'ils se battent contre les mesures potentiellement efficaces, ça signifie bien que cette industrie n'a, à mes yeux, actuellement aucune crédibilité en termes de prévention.
Justement, le paquet neutre dans certains pays comme la France et l'Australie, c'est devenu la norme. C'est un début de solution, selon vous ?
C'est une des mesures. C'est pas la panacée, mais les pays qui ont vraiment identifié le tabagisme comme une priorité de santé publique et qui ont mis en place ces mesures-là, les mesures de prévention, ont des taux qui ont nettement diminué par rapport à il y a 20-30 ans. Donc c'est une des mesures qu'il faut soutenir. Je vous rappelle que dans les années 60, tous les hommes fumaient, à l'exception de celles de ceux qui ne supportaient pas la fumée. Donc ça signifie que l'information est utile et qu'elle est nécessaire, mais maintenant elle n'est plus suffisante. Il faut d'autres mesures plus fortes, plus structurelles pour expliquer vraiment ce que c'est que le tabac pour le corps humain et pour une société.
Alors, dans un monde idéal, comment est-ce qu'on peut résoudre ce problème de santé? On rappelle, hein, 9000 personnes en Suisse chaque année meurent à cause du tabagisme. Le tabagisme qui coûte des milliards, hein, oui. Au niveau de la santé, qui rapporte aussi à l'AVS. Mais j'entends, comment est-ce qu'on va régler ce problème? Est-ce qu'il y a la possibilité de le faire?
Alors, oui, je pense qu'il faut continuer dans les pistes qui ont été prises, mais peut-être juste signaler qu'il est vrai que l'AVS est en partie alimentée par les ventes de cigarettes, mais ça représente entre 6 à 7% maximum du budget total de l'AVS. Donc, notre AVS n'est pas dépendante des fumeurs.
Ça, c'est bien, c'était une petite parenthèse.
Mais vous avez raison, voilà.
Oui, okay, non, mais, bien sûr.
Mais effectivement, c'est... alors, il y a un courant clair maintenant dans le monde de la santé, c'est l'expression anglaise « the game is over », le jeu est fini. Maintenant, il faut que les générations qui arrivent à l'âge de 10-12 ans arrivent dans un environnement sans fumée et sans tabac. Alors il y a des pistes qui disent maintenant on devrait faire en sorte qu'on devrait interdire la vente de cigarettes aux enfants nés en 2000 ou en 2005. Il y a des hypothèses comme ça qui sont évoquées pour qu'à terme, mais ça va prendre des décennies, ça soit anecdotique, épisodique de voir des gens avec une cigarette. Alors, je pense qu'on a fait un effort considérable, il ne faut pas baisser la garde, on ne va jamais arriver à 0%, l'objectif n'est pas là. Mais l'objectif, c'est de s'assurer que le consommateur est clairement souverain dans son choix. Or, actuellement, compte tenu de la publicité, compte tenu de la façon dont ces cigarettes sont trafiquées pour les rendre encore plus addictives, le consommateur n'est pas souverain, donc on a encore une grande marge encore quant à s'assurer que le consommateur sait vraiment ce qu'il fait, quand il commence à fumer ou qu'il continue à fumer.
Jacques Cornu, on vous remercie infiniment de nous avoir consacré ces quelques minutes ce matin. Et puis je rappelle que vous êtes à 18h30 au Muséum d'Histoire Naturelle à Neuchâtel pour une conférence sur le sujet. On vous souhaite une belle journée.
Merci, bonne journée à vous.